Libradio, www.libradio.org. Une radio crépusculaire, noctambule et nyctalope. Libradio, des ondes qui reflètent et réfléchissent, et qui laissent entendre. Vendredi 24 août 2018, au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, à la nuit des chauves-souris.
Voilà, nous voici donc dans les conditions du direct à la Nuit des Chauves-Souris, la 22e édition de cette Nuit des Chauves-Souris ici au Muséum d'Histoire Naturelle à Genève. Donc on salue bien entendu toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne et à Genève. Et toi, auditrice et auditeur, eh bien, quand tu entendras le podcast de cette émission, eh bien, tu pourras encore bien entendu nous interroger par rapport à ça, nous envoyer des messages. Et comme tu le sais, les messages se font à l'adresse suivante info@libradio.org. ou alors sur la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane. Alors ce soir, c'est une émission qui aura cours, disons, de maintenant à plus ou moins 22h30, 23h, tant que l'énergie est là. Et nous allons recevoir eh bien, des personnes de passage. Alors ça pourra être eh bien, des enfants, mais également des aînés, et tout ce qu'il y a au milieu de cela, des personnes qui vont nous donner leur impression quant aux chauves-souris, leur ressenti par rapport à cette exposition, à cette nuit, des chauves-souris. Hein, leur regard, on sait que les imaginaires façonnés au travers des civilisations et des temps concernant la chauve-souris eh bien, sont extrêmement variés. Et nous allons certainement en parler avec notre premier invité, Tommy. Bienvenue à toi.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tu es, toi, étudiant ici à l'Université de Genève en biologie, si j'ai bien compris?
Tout à fait, ouais, je fais mon travail de doctorat au Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève.
Eh bien, quelle chance. C'est pas mal. Hein. Alors, on est ravis de te recevoir. Alors, je vais lire la petite présentation hein, qui est très courte. Et puis, je pense que d'ores et déjà, ça prêtera à ce que tu commentes tout ça. Peut-être qu'avant cela, tu pourrais te présenter un peu plus à fond. Les chauves-souris, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ce choix-là?
Alors, je m'intéresse à peu près à toutes les bestioles qui peuvent exister sur Terre. Et en particulier, j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux, surtout. Et puis, au moment de choisir un travail pour mon master, je suis venu au muséum. J'ai découvert ce groupe, les chauves-souris, avec mon prof de master, qui est toujours mon prof de thèse. Et je suis tombé amoureux.
Des chauves-souris. D'accord, oh, très bien. Alors, voici le petit texte d'introduction. Ce petit chiroptère écolocalisant, sonar, doté d'un sonar, mais tu vas démentir ou préciser, hein, bien entendu. Oh, ouais. Seul mammifère doté du vol actif, hibernant l'hiver, c'est la chauve-souris. Pollinisateur et régulateur du plancton aérien, au moment crépusculaire de ses délicats balais, la bête humaine en réduit à néant l'espace vital. Pesticides, pollution lumineuse, habitat naturel réduit ou détérioré, les activités humaines toutes puissantes et aveugles impactent durement ce petit animal non pullulant. Parfois, l'humain interrompt le sommeil réparateur de la chauve-souris, ce qui a pour conséquence de la tuer le plus souvent. Typiquement, les feux d'artifice des humains bourgeois sont une tragédie pour les chauves-souris. On parle évidemment des feux d'artifice parce que voilà, il y a eu le grand feu d'artifice récemment. Alors, à court en apprendre plus aussi pour en défendre la descendance et en protéger la condition à la nuit des chauves-souris au muséum, en tout cas Libre Radio en sera. Voilà, ça c'était notre petite newsletter de cette semaine. Et c'est évidemment, on va immédiatement remercier les personnes du CCO, le Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris, ainsi que l'équipe du muséum, parce qu'on est à chaque fois très bien accueillis. On a vraiment un petit endroit, une petite alcôve comme ça qui est extrêmement confortable. Alors, qu'est-ce que ces quelques mots te font-ils réagir et comment?
Alors, la description était assez exacte. Mais si on devait relever quelques imprécisions, enfin généralités un peu trop, alors toutes les chauves-souris ne sont pas nocturnes, par exemple, elles sont pas toutes crépusculaires, il y en a qui sont diurnes, elles sont pas toutes non plus, elles sont pas toutes pollinisatrices, le mot que j'ai utilisé, ou nectarivores, ou par exemple chez nous, elles sont essentiellement insectivores, en fait, elles se nourrissent exclusivement d'insectes. Et il y avait autre chose.
Attends, je reviens. Vol actif, ça, on peut dire que c'est le mammifère.
Les seuls qui possèdent le vol actif, tout à fait, ouais. Voilà. Il y a d'autres mammifères qui peuvent planer.
Comme l'écureuil.
L'écureuil volant, ouais, dermaptère.
Mm-hmm. Donc le vol actif, ça désigne effectivement cette capacité à s'élever dans les airs et non pas à planer.
Oui, c'est elles battent des ailes pour s'élever. Voilà, elles font pas juste que ralentir leur chute ou ou tomber avec panache.
Exactement. Oui, alors en parapente, on dirait un vol balistique, c'est-à-dire un vol, tu vois, finalement qui n'est qu'un, comme tu l'as dit, qu'une chute
ralentie.
Voilà, exactement.
Alors non, là, elles ont un vol actif et elles se servent de leurs ailes qui sont en fait constituées de leurs mains, aux doigts extrêmement allongés et aux membranes, les membranes entre les doigts, donc qui vont jusqu'au bout des ailes, enfin, jusqu'au bout des doigts.
Très bien. Alors si tu es d'accord, nous pourrions commencer par effectivement présenter l'immense variété, enfin. Dire qu'il y a une immense variété d'espèces au sein de ce chiroptère.
Voilà, c'est exactement. Il y a 1400 espèces qui sont pour l'instant décrites dans le monde. Et ça représente une espèce de mammifère sur 5. Donc ça, c'est un gros groupe. Quoi. Après les rongeurs, le deuxième groupe de mammifères le plus diversifié sont les chauves-souris.
Ok.
Et en Suisse, il y a une trentaine d'espèces.
Une trentaine d'espèces, d'accord. Ouais. Alors justement, y a-t-il des espèces endémiques ?
De Suisse ?
Oui.
Alors non, il n'y a pas d'espèces endémiques de Suisse. Mais il y a des espèces qu'on trouve en Suisse qui sont relativement rares ou qui ont des distributions assez limitées. Par exemple, on a l'oreillard alpin. J'aime beaucoup les oreillards parce que je travaille dessus. dont la distribution est en fait essentiellement limitée au massif montagneux européen, des Pyrénées, jusqu'au Caucase, en fait, jusqu'en Asie.
Ah oui, quand même.
Mmh. Ouais. Mais du coup, ce qui lui fait une distribution assez... assez patchy, quoi, enfin localisé.
Ouais. On l'a dit, c'est un animal hibernant. Alors on reviendra sur cette question du sommeil parce que c'est peut-être là que les personnes.
Oui, je voulais revenir là-dessus.
Allons-y.
Pareil, toutes les chauves-souris n'hibernent pas. Voilà. Chez nous, elles passent l'hiver comme ça, mais sous les latitudes où le climat est beaucoup plus clément et les saisons moins marquées, elles sont actives toute l'année.
Très bien. Alors on reviendra effectivement sur ces espèces hibernantes parce que effectivement il se trouve que il se peut que l'on découvre, que l'on tombe sur des chauves-souris qui hibernent et c'est à ce moment-là où c'est extrêmement important de dire aux personnes qui tout d'un coup tomberaient dans cette situation-là de ne pas s'en approcher.
Oui, ou alors de ne pas les éclairer directement, ne pas essayer de les déranger, quoi, parce qu'elles sont extrêmement vulnérables en fait dans ces moments-là. Elles vivent de leurs réserves qu'elles ont accumulées pendant l'automne et donc un réveil peut être fatal au milieu de l'hibernation.
Ouais. Ouais. Ça n'est pas un animal migrateur.
Si, certaines chauves-souris sont migratrices, tout à fait. Oui. Même en Suisse, on a des chauves-souris qui sont migratrices, qui forment leur colonie de reproduction au nord de l'Europe, mais qui l'hiver se retrouvent chez nous.
D'accord. Et alors, à ce moment-là, les distances parcourues peuvent-elles être importantes ? Parce que c'est vrai que, comme c'est... Alors après, tu me diras s'il y a effectivement des espèces qui sont... J'imagine que des morphologies changent, mais celles qui habitent nos espaces et nos imaginaires sont plutôt des petits animaux.
Oui. Alors, les distances parcourues, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est des centaines de kilomètres, hein, même plus. Mais, et au niveau de la taille, oui, alors chez nous, la plus grande qu'on ait, elle fait 50 cm d'envergure. Et elle pèse une cinquantaine de grammes. Voilà, alors que la plus grande chauve-souris au monde, donc c'est le groupe des renards volants, les roussettes, qui sont elles des chauves-souris en fait avec des têtes quasiment de chiens, c'est pour ça qu'on les appelle les renards volants. Elles sont frugivores et les plus grands individus des plus grandes espèces peuvent atteindre 1,30 m d'envergure.
Quand même.
Ouais.
En as-tu déjà vu de celles-ci ?
Non, jamais. Non. j'ai jamais quitté l'Europe, donc j'ai jamais vu ces animaux-là, mais j'en ai vu empaillés ou en captivité aux eaux de Zurich, par exemple.
D'accord. Ouais. Dis-moi, sont-ce des animaux sociaux ? Ce que je veux dire par là, c'est que on imagine la souris. De nouveau, si on reprend les imaginaires collectifs, moi c'est vrai que dans un parc ici à Genève, je les vois typiquement voler un petit peu seuls, mais un petit peu collectivement aussi. Enfin, est-ce qu'il y a un temps pour tout ? Comment ça se passe ?
Alors oui, alors pour les stratégies de chasse, généralement elles chassent généralement pas en groupe, mais par contre elles forment des colonies. Chez nous, elles forment des colonies de reproduction. Enfin, en fait. Les femelles se regroupent au printemps. Dans des gîtes où elles mettent bas au même endroit, quoi, et elles se retrouvent tous les soirs, enfin toutes les journées.
Le soir rentre du boulot, bam.
Voilà, elles sortent du même gîte tous les soirs et elles y rentrent au petit matin. Mm-hmm. Il y a des comportements sociaux très, très élaborés chez les chauves-souris, mm-hmm. notamment chez le vampire, la chauve-souris vampire d'Amérique latine.
Oui.
Il y a des comportements de grooming, de toilettage mutuel, ou alors quand un individu a mal n'a pas pu se nourrir ou n'est pas assez nourri, il peut demander à être nourri par d'autres individus qui va régurgiter pour le nourrir. Enfin, c'est des bêtes très, très sociables.
Ok, alors peux-tu nous en dire un peu plus sur l'organisation sociale qui habiterait certaines espèces? Est-ce qu'effectivement on constate par exemple dans certains groupes que voilà, il y a même une hiérarchie, il y a un système, pourquoi pas même de sanctions ou je sais pas?
Alors, hiérarchie, pas forcément, mais il y a, enfin, pas systématiquement, mais il y a certains groupes chez lesquels il y a des harems avec un mâle qui a plusieurs femelles autour de lui, puis d'autres mâles qui ont des positions plus satellites dans la colonie. Voilà, donc chez certaines espèces d'Amérique latine aussi.
Ok, donc voilà. Et puis concernant la reproduction, alors je l'ai dit tout à l'heure dans le petit, est-ce que tu confirmes dans la petite newsletter, est-ce un animal non pullulant, c'est-à-dire que un animal non pullulant, c'est-à-dire qu'il a une descendance qui est réduite?
Oui, complètement. Oui, c'est, je vois très bien ce que tu veux dire. Les chauves-souris, elles ont un seul petit par année. Enfin, c'est la règle générale, parfois deux, mais pas plus, quoi. Et donc une femelle met un petit et s'en occupe à fond. Elle investit énormément pour l'élevage des jeunes. C'est ce qu'on appelle les stratèges K ou les stratèges R, donc avec typiquement les chauves-souris, donc qui sont comme un humain, quoi, peu de petits, et on investit à fond pour l'élever, contrairement aux souris dont tu parlais,
voilà,
qui elles vont pouvoir se reproduire tout le temps, toute l'année, et avoir des portées de 16 petits tous les 3 mois.
Est-ce qu'il y a-t-il un prédateur naturel à la chauve-souris comme ça qui serait le principal effroi?
Oui, il y en a beaucoup, des prédateurs naturels. Il y a notamment tous les rapaces nocturnes qui peuvent prédater les chauves-souris. Il y a des oiseaux qui sont d'autres oiseaux qui sont spécialisés dans la consommation de chauves-souris. On a observé, même, je sais, en Suisse, un truc assez rigolo ou pas, mais enfin, ce sont des mésanges qui prédataient des chauves-souris qui hibernaient. Donc, elles attaquaient les chauves-souris totalement, léthargiques. Pour manger leur cerveau.
C'est, carrément, ouais,
c'est charmant. Donc les oiseaux ne valent pas mieux que les chauves-souris. Et il y a des chauves-souris qui chassent d'autres chauves-souris aussi.
Ah oui,
oui, oui.
Ah bon, ok. Et alors évidemment, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Parce qu'effectivement, il y a une problématique. Et c'est vrai que cette année, au cours de cette 22e édition, il y avait, alors il n'y a pas un thème, mais il me semblait qu'il y avait quand même l'idée de sensibiliser aux problèmes de pollution lumineuse, notamment. Mais alors voilà, dis-nous en plus concernant les relations, oui, il y en a, entre la chauve-souris et l'humain.
D'accord. Alors ouais, elles sont très variées, mais au niveau des déprédations que peut causer l'humain sur la chauve-souris, elles sont multiples. Alors la pollution lumineuse est un facteur. Je pense que Pascal, qui vous parlera tout à l'heure, sera
tout à fait
plus volubile à ce sujet. mais sinon, les grosses menaces qui pèsent sur la faune dans son ensemble, c'est la destruction des habitats. Voilà, c'est la disparition de, enfin c'est la disparition des habitats et des insectes aussi, à cause de l'intensification de l'agriculture, etc.
Ouais.
Et dont toute la chaîne alimentaire pâtit.
D'accord. Est-ce le bruit un problème également pour les chauves-souris ou finalement pas tant que ça? Enfin, et j'imagine que notamment au moment de l'hibernation, ça peut poser un problème.
Les dérangements, oui, ça peut poser un problème, mais est-ce que le bruit en particulier, je ne saurais pas dire. Non, je ne veux pas dire de bêtises.
D'accord.
Mais ouais.
Alors, revenons-en à ton travail. Où en es-tu dans ce travail-là et quelles sont les étapes justement qui conduisent ta recherche à ce propos?
Alors, donc moi je travaille sur un groupe de chauves-souris, en particulier de chauves-souris européennes, les oreillards, qui ont des immenses oreilles, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, qui font 3 fois la longueur de la tête. Et jusqu'aux années 60, on considérait qu'il y avait une seule espèce d'oreillard, c'était l'oreillard, qui était distribué dans toute l'Europe, Asie. Et puis, dans les années 60, en Europe, on s'est rendu compte qu'il y avait deux espèces principales. Enfin, l'oreillard brun, qui était un peu roux, puis plus petit, puis l'oreillard gris, un peu plus grand. Enfin, voilà. Et puis ça, on a continué comme ça avec deux espèces, jusque dans les années 2000, où on n'arrivait pas à identifier les oreillards typiquement dans l'arc alpin, sur Genève. C'était compliqué. Et en fait, il y a une troisième espèce qui a été découverte et décrite en 2002. 2001-2002. Et c'est l'oreillard alpin, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Qui a donné du fil à retordre pendant un paquet de temps, parce que du coup toutes les données anciennes, on savait plus de quelle espèce on parlait. Quand on avait identifié un oreillard brun, ça pouvait être l'une des trois espèces, et donc voilà, On soupçonnait que ces trois espèces puissent s'hybrider entre elles, ce qui compliquerait la détermination des individus.
C'est une hypothèse ou c'est
C'était une hypothèse qui était tout à fait vérifiable. Et donc la première partie du travail de ma thèse, c'était de tester cette hypothèse. Oui. Donc faire de la génétique des populations, aller échantillonner les trois espèces dans les zones où elles vivent ensemble. Genève est l'un des rares endroits en Suisse justement où on trouve les trois espèces d'oreillards, et puis on est allé aussi dans le sud, enfin plus au sud, dans les Alpes françaises, en Corse, on est allé dans le Valais, Tessin, et puis avec des outils génétiques on a pu montrer qu'en fait pas du tout, elles se reconnaissent parfaitement, donc nous on a beaucoup de mal pour les différencier, mais elles se reconnaissent très bien parce qu'elles s'hybrident absolument pas. D'accord. On n'a pas trouvé de traces d'hybridation avec des marqueurs tout à fait diagnostiques.
Ok. Et ça, ça a été quand même une surprise.
C'était une surprise et une petite déception.
Ouais, bah ouais, bien sûr.
Mais c'est un résultat intéressant. Après, on a aussi pu détailler un petit peu ce qui se passait pour chaque espèce au sein des espèces, comment les populations étaient structurées, est-ce que les Alpes étaient une barrière à la dispersion et à la reproduction ou pas. Donc on se rend compte que l'oreillard alpin, typiquement, il s'en fout des Alpes. Il est entièrement homogène.
Okay.
Et par exemple, la Corse, les deux espèces qu'on trouve en Corse, elles montrent des différences génétiques assez marquées par rapport au continent. Et même écologiquement, il y a des différences assez notables.
D'accord. Quels sont les habitats naturels de ces espèces que tu viens de mentionner, de ces oreillards?
Alors ces oreillards sont des. Ils ont chacun des écologies assez différentes, les trois espèces dont je parlais. Il y en a une qui est plutôt restreinte au massif montagneux, il y en a une qu'on trouve plutôt en plaine, et puis l'autre qui se trouve un peu entre les deux, qui est beaucoup plus opportuniste et ubiquiste.
D'accord, ubiquiste, c'est-à-dire qu'elle peut se rendre.
Elle est répartie un peu partout, latitudinalement.
Ouais. Et concernant leur régime alimentaire, les trois sont-elles relativement proches?
Alors, ça, c'est la deuxième partie de mon travail de thèse. Ah, bonne question. Et donc, qui consiste en fait à étudier l'écologie et donc à travers le régime alimentaire de ces chauves-souris. Et pour ce faire, j'ai collecté en fait les crottes des chauves-souris, oui. sur les colonies de reproduction, pendant toute une saison d'activité, c'est-à-dire du printemps jusqu'en automne, quoi, quand les colonies sont établies dans le milieu bâti. Et à partir de ces crottes, on extrait l'ADN de tous les insectes, des restes d'insectes qui se trouvent à l'intérieur, et on les séquence simultanément. Et donc on obtient des listes de dizaines, centaines d'espèces d'insectes. Pour chaque date, on sait qui a mangé quoi et en quel.
Et alors, du coup, tu as observé des grosses différences ou des.
Et oui, pardon, pour revenir à la question. En fait, ce qui est assez rigolo de voir, c'est que l'espèce ubiquiste, elle est très différente, en fait, dans son régime alimentaire, elle est très différente des deux autres, alors que les deux autres ont les écologies les plus différentes.
D'accord.
Donc les deux espèces, en fait, celle qui est plutôt de plaine et celle qui est plutôt de montagne, elles ont un régime alimentaire qui semble plus proche. Ce qui est un peu étonnant. Et donc, en fait, une hypothèse, c'est que l'une exclut l'autre.
On va faire une petite pause, On va faire une petite pause et puis on va essayer de régler ce problème-là parce qu'effectivement, c'est extrêmement embêtant. Alors, petite pause musicale et puis on essaie de changer un câble ou quoi, et puis on continue juste derrière.
Ok, super.
She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hidey. Thank you. had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, 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 hadi.
This is glue, strong stuff.
Donc, Tommy, tu es donc, comme on l'a dit tout à l'heure, étudiant et tu prépares en fait une thèse sur les chauves-souris. Quand on parle des chauves-souris, est-ce à dire qu'il faut connaître l'ensemble de cette espèce ou en fait tu vas quand même alors tu nous l'as dit, ton domaine, ton champ d'étude va ensuite se resserrer sur ces trois espèces que l'on nomme oreillards.
Oui.
Mais est-ce que voilà, avant tout on fait quand même tu étudies quand même l'espèce, les chiroptères en général?
Alors en fait moi j'ai une formation de biologie en général quoi, donc il n'y a pas forcément de cours particulier sur les chauves-souris, mais après c'est plus par intérêt personnel, et puis de toute façon la littérature scientifique quand on l'étudie, on s'intéresse même à d'autres groupes, je dirais. Les techniques génétiques utilisées que j'utilise sur les chauves-souris, elles sont utilisées sur tous les groupes d'animaux, même sur les plantes, enfin voilà, donc après je ne suis pas un spécialiste des chauves-souris du monde.
Mmh.
Voilà, moi je suis chiroptérologiste débutant.
Mmh.
Donc je suis j'ai plus de connaissances, je dirais, sur la faune locale que sur la faune du monde, mais voilà, ce qui ne m'empêche pas de me renseigner.
D'accord. Et alors dis-moi, effectivement, lorsque l'on étudie de ce point de vue-là les chauves-souris, on est dans la rationalité, mais,
oui.
Mais est-ce que cela empêche-t-il ou n'empêche-t-il pas de s'intéresser à la chauve-souris dans les imaginaires collectifs, au travers des civilisations? Parce que c'est vrai que c'est un animal dont, peut-être pourrais-tu nous dire, pourquoi est-ce qu'il a toutes ces représentations qui changent d'une époque à l'autre et selon la géographie?
Alors, je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas sociologue ou historien, non, mais, ou anthropologue, mais non, il y a beaucoup d'animaux nocturnes qui ont longtemps eu une image assez, assez mauvaise, quoi. Il y a la chauve-souris, il y a eu les rapaces nocturnes, les engoulevents, Dieu sait quoi.
Absolument.
Voilà, qui se faisaient clouer sur les portes de granges pour des raisons assez obscures.
Ouais, d'accord. Donc, concernant la chauve-souris, c'est pas un aspect, disons,
alors,
qui...
En Europe, on n'a aucune bonne raison d'en vouloir aux chauves-souris.
Absolument. C'est ça.
Voilà, elles se nourrissent exclusivement d'insectes, donc c'est plutôt bon pour les cultures.
Mmh.
Alors, voilà, et puis c'est un régulateur. Et alors après, je sais qu'en Asie, l'image de la chauve-souris est beaucoup plus bénéfique. On va savoir pourquoi. les chauves-souris, elles ne posent pas de problème à l'humain. À une exception près, je dirais, ce serait le vampire en Amérique latine qui peut transmettre la rage.
Voilà. Voilà, alors finalement, voilà. Donc les morsures qui pourraient émerger, elles seraient le cas de cette espèce-là exclusivement, donc de la chauve-souris vampire. Hein, les autres
Alors oui, les autres chauves-souris de toute façon ne vont pas entre guillemets attaquer l'humain. Donc alors que le vampire oui, c'est une chauve-souris donc hématophage qui se nourrit de sang.
Voilà, hématophage et, donc
hématophage, okay. Ouais, qui est normalement qui se nourrit sur les gros mammifères sauvages, donc les tapirs, choses comme ça. Et puis qui va se nourrir sur le bétail humain. Et l'élevage de bétail étant croissant en Amérique latine, et ben il y a de plus en plus de vampires, et de temps en temps il y a des morsures sur l'humain. Et il peut véhiculer la rage, donc ça peut poser des problèmes.
D'accord. Qu'en est-il de la situation dans l'ensemble en général, ou plus particulièrement ici,
oui,
justement des chauves-souris? Est-ce qu'on observe que ces espèces sont en diminution, ou est-ce qu'elles restent stables?
Alors ça dépend vraiment desquels, mais la tendance globale est à la baisse. Voilà, de toute façon, il n'y a plus rien à manger. Mais il y a quelques espèces qui profitent du réchauffement climatique, qui étendent leur répartition vers le nord. Voilà, comme la pipistrelle de Kull, par exemple, qui est une petite chauve-souris urbaine, et voilà, donc qui profite des infrastructures humaines et qui se porte plutôt bien. Mais l'essentiel des autres est plutôt, voit plutôt ses effectifs à la baisse.
D'accord, donc quoi qu'il en soit, si l'on tombe, là on va parler pour les personnes qui ouais. se baladent, si on tombe sur une chauve-souris, qu'elle endormie oui. ou pas endormie, quelle est l'attitude à blesser par exemple, quelle est l'attitude à adopter?
Alors si vous avez une chauve-souris blessée, si elle hiberne, il faut la laisser tranquille, éviter de l'éclairer, éviter de faire trop de bruit. Voilà, si vous faites de la spéléologie et que vous tombez sur un hibernacula, un groupe de chauves-souris qui hiberne ou une chauve-souris isolée, il faut essayer de minimiser le dérangement. Et si par contre elle est chez vous, elle vole dans une pièce, elle est rentrée par la fenêtre ouverte, vous éteignez la lumière, vous la laissez sortir tranquillement. Et puis si c'est le chat qui la ramène parce qu'elle est blessée, parce qu'il l'a attrapée puis qu'elle est au sol, alors vous pouvez la ramasser avec un gant, la mettre dans une boîte et puis l'amener au Muséum d'Histoire Naturelle.
Très bien.
Il la prendra en charge et voilà, on reçoit tous les ans une centaine de chauves-souris.
Ah quand même, une centaine
ouais.
par année
oui. Et l'essentiel sont ramenés parce que des chats les ont attrapés.
D'accord. Dis-moi, quelles sont les conditions les plus favorables à ce que, pour l'habitat, je veux dire, et la reproduction d'une chauve-souris? C'est quel type de température? Est-ce que c'est une forte humidité ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose y a-t-il des conditions vraiment idéales?
Alors l'humidité, non, plutôt pas.
D'accord.
Donc des endroits secs et souvent très chauds. Elles sont souvent dans les, enfin pas forcément, mais il y en a beaucoup qui font les colonies dans les greniers ou dans les granges, etc. Et il fait plutôt très chaud l'été. Après, les habitats, en fait, ça dépend vraiment de l'écologie de l'espèce dont on parle. Elles exploitent toutes sortes d'habitats,
okay.
que ce soit des forêts, les milieux très, très fermés, aux plaines agricoles, ou aux paysages urbains. Il y a même des chauves-souris qui vont plutôt chasser sur l'eau, au-dessus de l'eau.
Ok. Et y a-t-il pour toi des lieux auxquels tu aspirerais d'aller, qui seraient des lieux particuliers pour une observation privilégié justement de ces espèces?
Alors là,
est-ce que ce serait plus en montagne, sur un pic ou alors dans une grotte ou je sais pas?
Alors en Suisse, il y a des sites incroyables de rassemblements autonomes, en fait, où après la reproduction, les individus se regroupent. Donc il y en a par exemple qui sont suivis au Jura, des gouffres en fait, où il y a des centaines, des milliers d'individus qui se regroupent de plusieurs espèces, de plein d'espèces, et donc il suffit de mettre quelques filets, quelques pièges, et c'est le jackpot assuré ces nuits d'automne, et on voit toutes sortes d'espèces en nombre incroyable, donc c'est quelque chose d'assez attirant. Et puis dans l'immédiat aussi, je vais bientôt partir en Guyane, où j'espère faire de la capture avec les locaux, la capture de chauves-souris, et là c'est une diversité folle, c'est des espèces qui ressemblent absolument pas aux nôtres, ça change de tout au tout, donc c'est assez attirant.
Ok, donc la Guyane par exemple pourrait être une des directions privilégiées des chiroptologistes.
Chiroptérologistes.
Tu l'as très bien dit, je vais même pas essayer. Petite question comme ça, un petit peu bizarre peut-être. Y a-t-il, alors on a bien compris, c'est un animal sauvage, y a-t-il des chauves-souris d'élevage? Je te demande ça parce que la question qui irait avec, ce serait concernant les déjections. On sait que des déjections d'animaux sont utilisées pour différents motifs. Qu'en est-il des déjections des chauves-souris? Mais d'abord, y en a-t-il des sauvages et d'élevage?
Alors d'élevage, non. Non. Il y a des espèces qui sont souvent trouvées dans les habitations, enfin dans les bâtiments humains, mais élevées, non. Non. Ça peut se garder en captivité. Il y en a dans certains zoos. Même les vampires se gardent en captivité. Mmh. Ou les roussettes, donc je disais, peuvent se garder aussi. Et puis ensuite, ouais, le guano est un excellent engrais, en fait. C'est très efficace, mais bon, pour le collecter, il faut trouver une colonie, quoi.
D'accord.
Faut pas en élever.
Mais disons que c'est quelque chose, c'est des choses qui se pratiquent. Donc il y a des personnes qui effectivement recherchent des colonies de chauves-souris pour en prendre le guano.
Pas à ma connaissance. D'accord. En tout cas, il y a des associations de défense, protection des chauves-souris, typiquement le CCO, qui organisent le nettoyage parfois, donc de clochers d'église, quand il y a des colonies avec 800 grands murins par exemple qui défèquent toute l'année, ça fait quelques kilos de crottes.
Certainement.
Et donc ils y vont de temps en temps avec des gros sacs poubelles pour nettoyer tout ça. Ouais. Et puis voilà, ça peut, on peut garder quelques poignées pour son jardin.
Bah, absolument. Alors si jamais des questions surgiraient, eh bien n'hésitez pas, hein, ici autour de nous. Et puis j'aimerais juste qu'on en revienne. On va te laisser tranquille parce que voilà, tu as certainement d'autres activités. D'ailleurs, quelles sont-elles ces activités aujourd'hui? Que fais-tu ici à la nuit des chauves-souris?
Alors moi, cette nuit, je pousse un chariot de la science. Donc je suis déguisé avec une blouse et une frontale, une lampe frontale. Et je réponds aux questions des gens qui auraient des questions tout à fait variées sur la biologie des chauves-souris, sur leur mode de vie, leur alimentation, les records des chauves-souris, les plus petites, les plus grandes,
Alors
les plus vieilles.
Parce que c'est la première fois que tu fais ça ici ou c'est...
Non, c'est la troisième année que je suis là.
Alors, obligé, y a-t-il une question comme ça qui t'a... Quelle est la question la plus insolite, une des questions les plus insolites, et quelles sont les questions qui reviennent le plus? J'imagine effectivement que c'est la taille, c'est certainement leur régime alimentaire, si elles mordent.
Alors, la question la plus insolite, je m'en rappelle, c'était... C'est un Espagnol qui me l'avait posé, il savait pas comment on disait, il me demandait si les chauves-souris avaient un zizi. Il l'a dit comme ça, je crois.
Ça... Ok.
Et j'avais justement à m'apporter une image d'un joli mâle pour lui montrer que oui, en effet, ils en avaient, comme nous, comme tout mammifère.
Ouais, absolument. Bah, oui,
voilà, donc...
voilà, ne pas oublier, hein, c'est un mammifère, un collègue mammifère, la chauve-souris. Voilà,
je suis un peu navré que ce soit la seule question dont je me rappelle.
Non, mais c'est bien. Juste pour en revenir, pour en terminer là, le sonar. Alors tu l'as dit, pas tous les chauves-souris sont dotés de l'écholocalisation, mais dis-nous en plus, parce que c'est vrai que c'est extrêmement fascinant. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est
un sens qu'on n'a pas?
Exactement. Alors explique-nous, comment ça se passe?
C'est un sens que nous ne possédons pas, mais qui leur permet simplement de se faire une idée de leur environnement qui les entoure. Elles émettent donc des ultrasons, c'est-à-dire des sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre, mais qui sont des sons normaux, et qui réverbèrent contre les obstacles et dont elles entendent l'écho. Et à partir de l'intensité de l'écho et le retard qu'il a, elles arrivent à déterminer où se situent les obstacles, à quelle distance et quelle taille ils font. Et donc à se faire une représentation, comme nous on a une représentation visuelle des choses, voilà, je peux voir qu'à côté de moi il y a un escalier, il y a le sol qui est à ce niveau-là, le plafond aussi haut que ça, et ben, elles ont aussi cette représentation, mais qui n'est pas visuelle, qui est différente.
Qui est différente, effectivement. Mais est-ce à dire qu'elles peuvent, en vol, tracer les contours de l'espace qui les entoure? Alors, ou est-ce qu'il faut d'abord qu'elles le fassent et qu'elles le mémorisent et qu'ensuite...
Elles émettent continuellement pour se déplacer. Elles peuvent être dans un environnement totalement nouveau et puis ne pas se cogner, quoi. Et par contre, elles ont aussi le sens de la vue. Hein,
tout à fait.
Elles ont des yeux tout à fait fonctionnels.
Et une ouïe aussi qui capte. Ok, alors écoute, pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Je ne sais pas si des questions émergent. Non. Alors, Tommy, y aurait-il une ou deux questions plus que je ne t'aurais pas posées, auxquelles tu aurais souhaité répondre, qui te viendrait comme ça à l'esprit?
Une question classique, à la limite, à laquelle je pense, c'est est-ce que les chauves-souris pondent des œufs? Des choses assez courantes, en fait. Donc, ce sont des mammifères, ce qui ne veut pas dire que tous les mammifères... Je dis ça, certains mammifères pondent des œufs. Ouais. Mais, enfin, en tout cas, ce sont des mammifères placentaires. Et elles ont donc des petits, exactement comme chez l'humain.
Exactement.
Elles mettent bas.
Et on peut dire des orifices également, comme les humains, qui ont les mêmes fonctions.
Exactement, oui, tout à fait.
Très bien, très bien. Bah, tu fais bien de le préciser. En fait, je dois dire que c'est une question qui m'a traversé l'esprit. Puis après, je me suis dit, bon, peut-être qu'on verra à la fin.
Mais c'est une question qui revient souvent.
Ouais,
c'est très bien.
Bah, c'est très bien de le préciser. Tommy, je te remercie beaucoup. Donc, bonne continuation ce soir avec le chariot des sciences. Peut-être qu'on va se recroiser. Peut-être y aurait-il une question absolument bizarroïde que tu aurais ce soir et que tu me dirais peut-être plus tard.
Oui, ou j'enverrai des gens vous poser des questions.
Absolument, très bien. Je te remercie beaucoup, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Voilà, petite pause musicale et puis on revient pour la suite des opérations. On verra, ce sera peut-être un enfant, une famille, peut-être un spécialiste de la question. À voir.
Qu'en dirais-moi ? Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, il n'a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Sharon. Ces matraqueurs assermentés qui vignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cet immonde misement. Mais il s'oublie la guillotine, en France aussi ça paie encore. MD sous le signe de l'Hexagone. On peut pas dire que ça soit bandant. Et le roi les cons sur son trône. J'parie les vagues qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, la télé dans les journaux, de pas se découvrir la ville, que le printemps se découvre bientôt. Les négres subissent les échecs, et les vieilles traînes sont bénies. Ils les appuient tous à la lettre, ils font plus de ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sort du boulard rouge et noir. D'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens tout doux ces moutons, effrayés par la liberté. D'un allant voter par Lyon, tout l'envers de la sécurité. Ils commémorent au mois de juin, débarquement de Normandie. Ils passent aux bras soldariens, qu'elle dit se faire de la chérie. Ils oublient qu'à la million, des Français criaient libertaires. Ils étaient bien tant qu'il y a l'homme, n'avait pas beaucoup de gens ouverts. Même les soucis de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, mais lui pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet, un soutien d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'inventent de leur populaire, de leur difficile le confort. Ils passent sous milliers dans la mer, ils sont ouverts les par les cons. Au moins tout c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient du gréco, j'ai payé, ils oublient un peu la machine. En Espagne, un peu fou en France, ils vont polluer toutes les plages. Et par leur unique présence, arriver tous les paysages. Quand en septembre on assassine un peuple et une liberté. Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Et l'ambassadeur se ramène, droit sous l'air d'une étagie. Le fascisme c'est la grande reine, à ce qu'elle encore à Paris. Mais les soucis de l'Hexagone, c'est vraiment pas ici les cures. Et le roi des cons sur son trône, il est gamade, ça j'en suis sûr. Et le vin fervent sans tolo. Ils sont très fiers dans leur vignoble, leur coturale et leur bordeaux. Ils espèrent le sol de la terre, un peu partout à l'étranger. La pinard et leur camembert, c'est leur savoir à déclaré. Ah non, va au salon d'auto, ils vont t'admirer et patiner. Les mêmes modèles de chez Peugeot, ils pourront jamais se payer. La bagnole, la clé, car c'est leur cœur, tout le peuple de France. Nous supprimer, c'est tuer, c'est une drogue à la coupe du monde. En descente, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits galons. Ils sont toujours aussi moches, mais y'a de la joie dans les ghettos, y'a de la joie. La terre que s'arrêtait de tourner, il va prendre pas leur réveillon. Pas coudrait tous les voir crever, et tout fait le dans marron. Elle est sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Et si le roi des cons perd de son trône. Hollande, Sarko, Le Pen, roi des cons.